Serait le roi du surgelé.
Salut, Max.
CO2, mon amour.
Qu'en est votre société? L'aliment américain putré.
L'aliment américain rapide, Max.
À quelle nouvelle abomination devons-nous attendre?
Des omelettes.
Avec quoi les ferez-vous? Des balles de ping-pong?
Cuisiner dans des conditions ultra-hygiéniques.
Et qu'est-ce que ça fait une omelette hygiénique alors? Est-ce que ça balaye les intestins?
Réveillez-vous, Max. Je vais donner aux braves gens ce qu'ils demandent.
Ridicule. Vous leur donnez seulement des nitrates, des phosphates, du gluten et de la soude.
Avec Denis Chessou.
Vous empoisonnez le pauvre bougre.
Vous êtes une race qui va disparaître.
Que c'est juste.
Sur France Inter.
Tout à fait précurseur, hein, cet extrait de La Grande Cuisine. Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, cette émission qui parle de nature, d'environnement, mais beaucoup quand même d'environnement maintenant, puisqu'elle chuchote à vos oreilles. À la technique, il y a Clément Berman, et puis assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pistuggia qui réalise l'émission. Avec, donc, je vous le disais, évidemment, une petite humeur subjective, parce que CO2 Mon Amour, c'est un titre qui a été trouvé dans la chaleur d'un col en Ariège et qui sort d'un micro en septembre 1992. Pourquoi? Parce que ça interpelle, ça sonne et dit en filigrane notre addiction aux énergies fossiles. Alors, 28 ans plus tard et 5 ans après l'accord de Paris, le 12 décembre sera, et tant mieux, une journée spéciale climat sur France Inter. Alors, on vous dira que nous sommes la dernière génération pouvant limiter la casse et que vivre dans une cocotte minute en 2050 risque de contrarier un tout petit peu le bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de pays veulent atteindre la neutralité carbone. On n'en parlait même pas encore il y a 5 ans. Bon, c'est un peu sur le pied sur l'accélérateur quand même. Hein. Entre-temps, on nous aura incité à coup de publicité verte à acheter un nouveau portable 5G compatible avec un SUV de 1 tonne 5 hybride bio. On nous dira que la viande, c'est très très vilain. Hein, et on applaudira les milliardaires américains de la bidoche in vitro en faisant crever nos éleveurs et nos paysages avec la bénédiction de vegan citadins. Bon, et toi? Et toi? Eh bien, tu as 5 ans et tu marches tout seul. Ah bah si, mon petit accord de Paris joli. À 5 ans, on marche tout seul normalement. Tu es né, on s'en souvient, dans l'euphorie, au milieu de tes nombreux papa-maman. Les fées occidentales et asiatiques les plus girondes, souviens-toi, gironde en CO2, avaient toutes paraffé ton acte de naissance penché sur ton berceau. Et puis, le champagne du buffet nettoyé était reparti à ses grandes affaires. Ah, quel beau bébé on avait là, oui. Eh oui, le réchauffement climatique n'avait qu'à bien se tenir. On allait tous pouvoir te changer tes couches. Sauf que 5 ans plus tard, mal fagoté dans ton body trop grand, bah, mon petit accord de Paris, t'es toujours posé le cul par terre. Et tes parents du monde entier ont continué à monter le thermostat. Et ouais, tu marches pas toujours très très bien. Blocage des rotules. Ah, une vilaine sorcière, sans doute glissée parmi la foule, t'avait jeté un sort. Écrasée de chaleur aujourd'hui, bah tu les regardes, déforestées, brûlées, salivées à l'idée de sortir du gaz, du pétrole, du charbon, des métaux rares en Arctique ou bien sur la Lune. Oui, tu vois fondre les glaciers et les paires d'ailes dans le ciel. Ouais, alors tu vois fleurir aussi à présent dans tous les médias des émissions qui à l'environnement font la part belle. Tu vois des jeunes éclairés, crier, secouer leurs aînés et au chevet du climat s'engager. Et puis aussi, de temps en temps, une sournoise pandémie qui vient gâcher nos fêtes de Noël. Le climaticide Black Friday, la panse pleine, rigolait en douce. Le méthane glissait sous le tapis du permafrost aussi. Car il sait qu'avec le trop et le manque d'eau, il sera la star de demain. Un festival de chaos dans son sac à dos. L'iconique ours polaire, le quémande, lui, une place au musée Grévin, s'il vous plaît, ou bien dans un zoo. Alors, mon petit gars, mon petit accord de Paris, un jour, tu verras, tu vas marcher et tu seras fort. Au milieu peut-être de jolies ruines dans un premier temps d'un monde rétréci, mais aussi de splendeur au fond de toi que tu ne sais pas encore. Mais malgré ceux qui décoignent méthodiquement la Terre et les chances qu'on se donne de vivre dessus, eh ben quand même, on le sait, vous avez plein d'actions positives qui sont réelles, à commencer, je le disais, par celles des jeunes, des ONG, des collectivités. L'État aussi avance, ouais, alors je vous renverrai quand même au podcast de ma rencontre du 22 novembre avec Nicolas Hulot sur le sujet. Notre boulot d'être humain, c'est de chercher d'autres lumières quand les illusions s'éteignent. Et surtout, ne jamais laisser la résignation franchir le seuil de nos âmes. Alors aussi, je vous propose aujourd'hui de suivre le travail d'une communauté de communes, celle des Mauges, car c'est en soi d'abord et localement qu'on va se réinventer.
Ah.
Alors Thierry Dupin, notre programmateur, a pioché dans la playlist de France Inter et s'est dit qu'un petit reggae de Liam Bailey, ça avait un petit goût du sud de l'Anjou, je ne vous dis que ça. Tenez, on va partir dans les Mauges.
Mauges viendrait de Pagus Metallicus, le pays des métaux. Donc,
on a de l'or, on a de l'uranium.
On a effectivement un certain nombre de métaux présents dans les roches. Ça aurait inspiré l'appellation locale. Et on a aussi une explication qui est aussi mise sur la table, c'est celle de mauvaises gens.
Ah, bon jeu, mauvaises gens.
Voilà, c'est cool, ça.
C'est bien ça pour eux.
Ouais, c'est moins flatteur ça, ouais. Hein, c'est vrai. Ouais. Et alors que c'est peut-être non pas un caractère de. Mais plus une timidité première dans le contact, mais une fois que le lien est créé, il est solide et franc et total.
Nous sommes donc au sud de l'Anjou, aux confins de la Vendée et du Poitou. On est au début ou bien dans le prolongement du massif américain, hein, sur un bombement schisteux. Alors vous avez des grandes routes qui sont rectilignes, qui ont été tracées sous la Révolution et l'Empire. Pour des raisons stratégiques, faut dire que la guerre de Vendée, elle est quand même bien présente dans la culture, hein, population décimée quand même, et on est reparti de l'avant, ça donne une idée aussi du caractère. Donc on est dans ces Mauges, une entité donc de Semaine-et-Loire, avec des communes comme Chemillé, Beaupro, Auray d'Anjou, Montrevaux-sur-Ève, Sèvres-et-Moine, enfin bon, j'en oublie évidemment. Aujourd'hui, ils sont 120 000 habitants qui se sont regroupés. Alors, pour vous le présenter, on va dire que c'est pas forcément un territoire écolo à la base, non. C'est une terre de l'Ouest gentiment conservatrice et une terre d'entrepreneurs très actifs, avec un très joli tissu de PME et de TPE. Alors on se prend la main, on prétend pas être ce que l'on n'est pas. On fait comme on dit là-bas à la sauce Mauge, c'est-à-dire qu'on avance de façon solidaire, on ne subit pas les choses, et donc c'est cette histoire des éoliennes, de l'agriculteur et du bocage que l'on va vous raconter. Et on va commencer avec Franck Aubin qui est en charge de la transition donc chez Mauge Communauté, avec un mot extrêmement important qui est celui de fédérer.
Alors fédérer, oui, c'est vrai, parce que en fin de compte, on a l'habitude de travailler ensemble. Du reste, si on a créé nos 6 communes nouvelles à partir de 64 communes, c'est bien parce qu'on voulait avoir une vision commune, une volonté commune. Et donc l'idée, ça a été de porter des politiques très structurantes qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, entre autres, la question de la transition énergétique et plus particulièrement celle du développement des énergies nouvelles.
Qu'est-ce que vous avez souhaité faire ?
On a été très très sollicité par des développeurs il y a de ça une quinzaine d'années. Ouais. Et on a décidé d'abord de faire un schéma éolien. Et puis, nous étions encore dans l'ancienne version de la réforme territoriale. Et nous voulions aller dans cette direction, mais en fin de compte, tous les territoires n'étaient pas forcément prêts au même moment. Et donc, ce sont les citoyens, en fin de compte, qui ont pris le relais. Et nous, on les a rejoints, en fin de compte, dans cette dynamique, lorsqu'on a réalisé donc cette réforme territoriale, plus particulièrement en 2016.
Et donc, le ciment, ça a vraiment été les habitants, les citoyens.
Ce fait collaboratif, on a l'habitude, vous savez, c'est une terre où il y a eu des CUMA, c'est-à-dire les regroupements d'agriculteurs pour porter des investissements en matériel. En fin de compte, on n'a fait que reproduire des schémas qui existent depuis très très longtemps sur territoire.
Un groupe d'agriculteurs qui se lance dans l'éolien, c'est peu banal. On est loin des projets pilotés par les collectivités et les industriels. Cette initiative dans les monts de Blon est citoyenne. Elle est menée par une coopérative agricole. Et enfin, ils déposent leur demande de permis de construire.
Il y a encore énormément de travail à faire. Au départ, il y a beaucoup de gens qui nous ont pris pour des apprentis et des amateurs et qui je pense, ne croyaient pas du tout à nos capacités. Et ben, on leur a démontré qu'avec un peu de volonté et de détermination, on peut faire de grandes choses en tant que simple citoyen.
Alors Sébastien Cesbron, donc avec nous aussi, parce que vous êtes le président de l'association Énergie Citoyenne. Comment ça pousse une éolienne ici ?
Les citoyens se sont intéressés au phénomène et on s'est dit on veut y prendre part, on veut quand même être propriétaire de ces parcs-là. Mmh. Donc on est rentré en contact avec ces industriels en fait pour voir si on pouvait racheter en fait les parcs pour en être propriétaire pour leur exploitation.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on veut dire qu'il y a 4 actionnaires et parmi les 4 actionnaires il y a donc cette association de citoyens qui s'appelle Citéol et qui regroupe aujourd'hui 371 citoyens.
C'est ça. Au moment où on s'est dit voilà il y a des éoliennes qui sont là, est-ce qu'on pourrait les acheter, on est allé voir les citoyens de toutes nos communes, on a fait des réunions réunions publiques, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, parce que c'est à la fois un projet écologique et un projet de territoire, et donc ça parle bien aux gens.
On imagine bien qu'il y a aussi peut-être des opposants.
Oui, on a eu des recours, et c'est vrai qu'on est dans un environnement de bocage qui est assez densément peuplé quand même, donc on a des éoliennes qui sont proches des habitations, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir des citoyens qui soient là, c'est de pouvoir dialoguer avec eux. Enfin, moi, voilà, j'habite juste à côté du parc, et donc je suis sollicité par des gens, parce que quelqu'un qui habite vraiment tout près peut avoir des nuisances, mais on va pouvoir en discuter et puis essayer de trouver des solutions. On est beaucoup moins dans l'opposition, mais plus après dans le dialogue pour trouver les meilleures solutions pour que tout se passe bien.
L'idée de départ, si vous êtes appuyé sur le scénario négawatt.
Oui, c'est ça, parce que on pourra pas continuer à consommer autant d'énergie et tout remplacer par des énergies renouvelables. Si on veut développer les énergies renouvelables, il faut aussi qu'on diminue notre consommation. Et le fait d'investir dans ces parcs, ça permet de sensibiliser les personnes, de leur faire comprendre ce que c'est que la production d'énergie, combien ça produit, combien moi je consomme et qu'est-ce que je peux faire pour changer mes comportements. Ça rend la chose très concrète en fait pour les actionnaires qui investissent dans le parc.
En fin de compte, nous, côté collectivité, le fait d'investir aussi dans les éoliennes, c'est de pouvoir faire redescendre aussi des dividendes pour aller investir et réinjecter dans la transition énergétique et entre autres la rénovation énergétique. Puisqu'on est un territoire rural, beaucoup d'habitats qui datent d'avant 1970. Et donc l'idée, c'est on a commencé, on a pas mal d'OPA, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, où la collectivité injecte avec l'ANA, d'autres organismes, l'argent donc qui va être aussi collecté. C'est une source de revenus supplémentaires. Et puis l'objectif, c'est de faire en sorte qu'en 2050, on soit un territoire à énergie positive.
Alors aujourd'hui, vous revendez EDF, on est sur un format classique ou...
Non, on est sur un complément de rémunération et donc on pouvait faire le choix du fournisseur d'électricité à qui on allait revendre notre électricité. Et donc on a choisi de partir avec Enercop, qui est à 100% dans les énergies renouvelables, qui est sur une structure avec des valeurs qui sont proches des nôtres. Et voilà, ça donnait du sens en fait pour les actionnaires d'avoir ce partenaire-là. Et donc là maintenant, on réfléchit avec Enercop et on va lancer une offre aussi d'énergie locale pour avoir une sorte de circuit court aussi de l'électricité pour dire à nos actionnaires, vous pouvez acheter l'électricité que vous produisez et avoir un système de bout en bout.
Qu'est-ce qui vous plaît dans tout cela aujourd'hui? Quel sens on donne? Parce que c'est quand même ça aussi, c'est la question du sens.
Moi, je suis totalement sidéré par la montée en compétences des gens qui se sont impliqués là-dedans. Quelqu'un comme Sébastien, qui est à côté de moi, qui connaissait pas grand-chose à l'éolien, sans lui faire d'injure, il est devenu aujourd'hui un spécialiste. Et il n'est pas devenu qu'un spécialiste dans l'éolien au sens pur, mais c'est devenu aussi un spécialiste, en tout cas de quelqu'un de très averti sur l'aspect des montages financiers, juridiques. Là où on croit que le citoyen pourrait être complètement dépassé par ces grosses machines au sens propre comme au sens figuré, non, au contraire, il y a eu plein de montées en compétences, et ça donne une richesse au territoire qui est assez incomparable. C'est un booster.
Sébastien Cesbron, là aussi, quel sens on donne à tout ça?
J'avais entendu une expression qui m'avait bien plu, qui disait « montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'y arriver, c'est le seul ». La transition énergétique, elle se fera via les collectivités, les citoyens qui reprennent la main sur ces choses-là.
Comme on est sur un territoire quand même aussi qui est assez vert, moi je vais vous laisser parce que j'ai un petit peu de chemin à faire dans les Mauges. On va parler de nature, de biodiversité, je sais pas, de vaches, de tout ça. Donc j'y vais, je vous laisse et puis à très bientôt.
À très bientôt Denis.
À très bientôt, merci.
On va quitter Sébastien Cesbron et Franck Aubin, et puis toujours en compagnie de Dimitri Caillot, vous l'entendrez pas, mais c'est mon guide et ça je le remercie. On va s'intéresser au BSP, autrement dit au bon sens paysan. Qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Alors là c'est intéressant, on est sur la commune de Jété, on n'est pas loin de Beaupro donc, et donc à 15 km de Chemillé, on va rejoindre Damien Bretonneau qui va nous raconter en tant qu'éleveur comment il envisage le travail.
Depuis longtemps, sur l'exploitation, il y a toujours eu du pâturage. Ouais. On est au milieu du bocage, donc on bénéficie à plein du paysage bocager pour faire pâturer nos animaux. Même pour faire pâturer un troupeau de 100 vaches, c'est possible.
Dans les gaz à effet de serre, on a donc notre CO2, on a du CH4. Le CH4, c'est la rumination, donc c'est par devant que ça se passe, des différents bovins. Et puis aussi, il y a le protoxyde d'azote. Alors, comment on agit là-dessus?
Alors le CO2, c'est principalement les énergies fossiles. Donc si on veut faire des économies, faut moins utiliser de fuel, moins d'électricité éventuellement. Le protoxyde d'azote, c'est surtout issu des engrais chimiques. Donc on peut éventuellement réduire ça en utilisant, comme dans nos prairies, beaucoup de légumineuses et de protéagineux qui apportent l'azote naturel aux animaux. Et au niveau du CH4, pour les animaux, on peut éventuellement jouer un petit peu sur la qualité de l'alimentation des animaux et éventuellement, après, pour réduire les émissions, la méthanisation, qui est un de nos projets également.
Alors, on a aussi quoi en énergie? Vous faites un panneau, vous avez des panneaux?
J'ai un bâtiment pour l'élevage de mes génisses là, que je dois renouveler parce qu'il était usé. Et du coup, on en profite en même temps pour installer nos premiers panneaux photovoltaïques sur la toiture.
Vous, profondément dans cette démarche, qu'est-ce qui vous intéresse?
On est un secteur dynamique, donc ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler avec d'autres personnes. On a la chance d'avoir un climat local qui est très propice à ça, notamment depuis très longtemps avec les CUMA, les coopératives.
C'est vraiment l'ADN des Mauges.
Oui, c'est ça, exactement. Culture, ouais. Donc je fais aussi partie d'un groupe de progrès avec d'autres jeunes éleveurs comme moi pour avancer sur toutes ces questions environnementales, améliorer la qualité de nos produits, la santé des animaux, la qualité des cultures. On essaye de faire plein de choses comme ça.
Comment vous vous projetez demain?
Alors, on essaye d'avancer pour améliorer notre bilan carbone, la qualité de nos produits. Et puis, avec l'intérêt de la méthanisation, notamment pour tout ce qui est destruction des mauvaises graines à l'intérieur, ça nous aiderait pour, dans nos futures cultures, éventuellement avoir moins besoin de phyto et moins d'engrais chimiques et éventuellement un jour pourquoi pas passer en bio.
Qu'est-ce qu'on appelle, Damien, un pâturage dynamique? Parce que là vous me dites, le mien, allez, ça y va, il est dynamique, qu'est-ce que c'est?
Nous, l'intérêt, c'est qu'on profite au maximum de la pousse de l'herbe au printemps. On a un troupeau de 100 vaches à nourrir au printemps, donc on leur donne juste la quantité nécessaire chaque jour de ce qu'elles ont besoin pour manger. Et le lendemain, on recommence, on met une nouvelle parcelle chaque jour, donc elles ont toujours de l'herbe à volonté, de très très bonne qualité. L'intérêt, c'est d'apporter beaucoup de protéines végétales avec nos prairies multi-espèces. On mélange des graminées qui apportent un peu plus d'énergie et des légumineuses qui apportent avec le trèfle un peu plus de protéines.
Charlotte Paco, alors là, évidemment, on est avec vous aussi parce que vous êtes animatrice sur le territoire, hein, donc pour accompagner ces éleveurs laitiers. Quelle est la voie de progrès en ce moment?
La voie de progrès, moi, ce que je ressens dans les groupes d'éleveurs là, de progrès des Mauges, c'est surtout une grande ouverture d'esprit, comment on s'adapte par rapport au contexte actuel, s'orienter, bah, effectivement, la réflexion de faire son bilan carbone. Oui. Voilà, comment on répond aujourd'hui aux problématiques de la société. Enfin, c'est des éleveurs qui sont très à l'écoute aussi de ce qui se passe et qui essaient de s'adapter.
C'est-à-dire qu'on pratique aussi des médecines naturelles sur les animaux.
Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui souhaitent suivre des formations, que ce soit sur l'homéopathie, sur l'acupuncture, sur l'ostéopathie. Mm-hmm. Beaucoup de réflexions sur le soin des animaux.
Bon, bah, je vais vous laisser avec votre barre rouge, là, parce que sinon je risque d'y passer la nuit, si je continue à gratter.
Ah oui,
moi,
oui.
La papate.
Ah oui,
bah,
c'est
tiens.
Bon, ah, oui, il veut des caresses aussi.
Ah, oui, bah, j'en ai compris. Ouais. Ça, c'est, okay. Bon, bah, écoute, c'est bien. T'as peut-être loupé ta vocation de chien de garde, mais enfin, en tout cas, t'as pas loupé ta vocation de compagnon. Bon, ouais. À très bientôt, Damien.
Oui, merci. Merci.
J'ai laissé le bas rouge, hein. Je ne voulais pas amener parce que c'était assez imposant, hein. faut quand même bien dire. Non, c'est intéressant de voir donc ces agriculteurs, en général 30-40 ans, là, très, très, ils bougent, quoi. Ils sont dans une adaptation, ils ont très, très bien compris donc, les enjeux. Donc c'est intéressant de vous montrer des gens qui ne sont pas forcément, on l'a bien compris, bio, voilà, parce que ça on en a beaucoup, on vous en a déjà présenté beaucoup, mais des gens qui sont dans une autre évolution aussi. Et tenez, on va écouter donc, une femme, peut-être une des premières à avoir chanté l'écologie.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulences, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursouffle, on ne distingue plus le front, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais mais près de moi vit une humaine. Je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices. Et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène. Et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient. Bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place. Pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains. Ils seront encore là, j'espère, quand mes eaux redeviendront claires et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi, cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
Le lac Saint-Sébastien, vous l'avez reconnu, c'était Anne Sylvestre. Je trouve ça très intéressant parce que donc ça fait une bonne trentaine d'années, donc elle a facilement donc écrit cette chanson et déjà plein de choses. Mais même dans les années 70, années 60, tous les sujets que nous évoquons depuis des années, ils sont sur la table. Alors on va poursuivre ce voyage dans les Mauges. Je vous avais parlé dans le triptyque, du bocage, mais c'est juste après cela.
Un piquet.
Tu me donnes un peu de vin?
Les tomates espagnoles sont pas mauvaises, hein?
Il est bon, mon clafoutis.
Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
CO2, mon amour.
Mais il y a tout ici, il y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, je suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Sur France Inter.
Vive la Révolution!
Vive la Révolution!
La Révolution!
Vive la Révolution!
Oui, alors c'est pas un jeu, mais c'est un extrait de Milou en mai que Xavier Pestuggia a sorti. Ouais. Le bocage, oui, donc dans notre triptyque l'éolienne, l'agriculteur et le bocage. Alors là, on n'est pas très loin de Saint-Florent-le-Viel, qui est cher à Julien Gracq. Moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer une fois, c'était type extraordinaire. Bon, et donc on a Chaudron en Mauges, qui n'est pas loin. Alors, on va sauter la haie, on va pénétrer dedans, et surtout, on va arrêter justement de les faire sauter pour cause de machinisme agricole. Ça fait des dégâts mais monstrueux, cette affaire-là. Et on rencontre Yves Gabory, de Mission Bocage.
Mission Bocage, c'est une association qui a pour but de remettre cette histoire du paysage et du bocage dans l'activité d'aujourd'hui, dans la modernisation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que CES ont encore des rôles à apporter, des services à jouer pour toute l'activité du territoire et principalement l'agriculture. C'est quelque chose qu'il va falloir de plus en plus remettre dans les systèmes de production. C'est que CES, non seulement elles ont ces rôles fondamentaux et généraux, biodiversité, érosion, captation du carbone, etc. Mais directement pour demain faire du lait à un prix intelligent et dans un système cohérent et économe avec de la prairie, la haie est l'outil indispensable.
Faites-nous le lien, ça c'est très intéressant. Bon, se dire évidemment que ça peut être un abri donc pour les vaches, mais faites-nous le lien entre justement une qualité de lait et une haie.
Il a été mesuré que des animaux avec des haies et de l'abri avaient une productivité, une croissance bien supérieure à ceux qui étaient mis dans la même parcelle à côté sans cet abri.
Comment fait-on maintenant pour replanter des haies? C'est-à-dire, il faut voir qui? Il faut voir les agriculteurs, les entrepreneurs, les collectivités?
Comme le disait Jean-Marie Brotteau du temps de sa présidence à Mission Bocage, il faut que la haie soit plantée dans les esprits avant de la planter sur le terrain.
Donc ça, c'est essentiel. Ça veut dire que, peu importe la raison, elles sont toutes bonnes, mais il faut en avoir envie. Et à partir de cette première envie, on va travailler à donner encore plus de sens à ça. On peut vouloir planter simplement une haie pour agrémenter son arrivée d'exploitation, mais si en plus on commence à la connecter à un bois et à la reconnecter à une ripisylve de fond de vallée, on fait un corridor. Donc la fonction biologique, on l'associe, on l'additionne à l'envie, par exemple, esthétique qu'on avait de départ. Et puis cette haie, finalement, c'est peut-être simplement d'un volume végétal qu'on a besoin. On peut le faire varier pour qu'il ait aussi des rôles par rapport et des impacts par rapport à ce qui se passe dans les parcelles. D'accord. Donc là, on va associer encore plus de fonctions et additionner le corridor à une fonction agronomique de protection, par exemple, des parcelles, des cultures, parce qu'on a de plus en plus besoin aussi de protéger nos cultures par le bocage.
Une haie, c'est quand même extrêmement généreux et ça part quand même assez vite. Alors évidemment, il faut croiser différentes espèces, il faut que ce soit donc mellifère, voilà. Donc, mais ça part bien, quoi, une haie.
Oui, c'est souvent un frein qu'on nous donne, c'est de dire replanter, oui, mais j'en profiterai pas, ou il faut du temps pour que ça se constitue.
Ah non.
On a des techniques aujourd'hui pour avoir une efficacité dans la reprise et une efficacité dans la croissance. Tant et si bien que, à la fois en bocage, mais aussi en agroforesterie, on en est même des fois à se poser la question de les faire pousser un peu moins vite, parce qu'on les met tellement en situation favorable que, du coup, ça dysfonctionne. Donc, pour vous dire, l'idée est, dès le démarrage de la plantation, de créer les conditions favorables pour avoir une croissance équivalente à peu près à 1 mètre par an.
Alors Yves, pourquoi ces mauges et les haies ont toujours cohabité ? Historiquement, c'est intéressant ça.
Le bon sens paysan a tout de suite perçu que les mauges, à proximité de l'Atlantique et sous cette influence de vent, avaient besoin de protection. Donc le réseau bocager, c'est vraiment l'outil pour ça. Et aussi, effectivement, la création et la forme de nos paysages limitait les possibilités de développement de l'agriculture. À savoir qu'on a des plateaux, des grandes vallées profondes qui se sont creusées par l'érosion progressive. Et donc on a cette mosaïque de paysages et notamment des parcelles en coteaux où il peut difficilement se faire. Voilà, ouais. Avec des espaces où on peut difficilement valoriser ou pratiquer une agriculture autrement que par de l'élevage. D'accord. Et donc cet élevage nécessite à la fois des conditions de bien-être, de portance, de façon à ce qu'on puisse mettre les animaux au champ le plus longtemps possible. C'était ça vraiment l'enjeu. Et donc plus on avait de situations différentes entre ce plateau, ce coteau et ce fond de vallée, plus on allait être en mesure de faire bouger notre bétail dans l'année pour qu'à chaque fois il trouve les bonnes situations.
Donc il fallait de la haie.
D'élevage. Et la haie a beaucoup contribué à ça, tantôt pour abriter, tantôt pour atténuer les températures, retenir les sols. La haie anti-érosive, la haie de rupture de pente, hein, très très présente et fondamentale. Et aujourd'hui, on a eu un certain nombre de ces haies qui ont été arrachées, on a directement la punition.
Vous l'avez peut-être remarqué en parcourant nos campagnes, mais on y voit de moins en moins de haies. Un tiers d'entre elles ont été détruites en un siècle. Et cela pose un véritable problème écologique, notamment de ruissellement des eaux.
Il y avait 7-8 parcelles délimitées par des haies. Et l'agriculteur qui est en place a décidé de les enlever.
Je veux retrouver mes paysages, je ne demande pas des sanctions même financières.
Du jour au lendemain, elle a vu ses haies rasées.
Nous sommes en France et on continue donc à arracher les haies. Alors on rappelle que, fort heureusement, maintenant on ne peut plus donc les dégager comme ça. On peut se faire récupérer par la patrouille. Mais là, on ne demande surtout pas de nouvelles lois environnementales. On les a toutes, simplement elles ne sont pas assez appliquées. Ce qui fait que ça ne fait pas assez peur aux agriculteurs, parce que c'est quand même ça la réalité. Alors qu'ils ne devraient pas donc les dégager. Et puis fort heureusement, il y a de la recréation de haies. Alors ça nous stimule.
Oui, tout à fait. On a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. La motivation, c'est de remettre un certain nombre de haies, un dispositif bocager, agroforestier aussi, de façon à ce que ce soit encore plus proche et performant dans le système de production.
Donc on a le bois énergie, évidemment, ça c'est une forte demande. On rappelle simplement que historiquement, on a eu donc l'arrivée du fioul, donc on a dégagé énormément donc aussi de haies, ou bien on s'est retrouvé avec des stocks absolument pas possibles. Et donc là maintenant, il y a une bascule qui s'opère.
Mais oui, parce qu'en fait, depuis 1974, effectivement, on a beaucoup moins récolté les branchages des arbres têtards, des trognes. Hein, et de ce fait, on capitalise. Et au bout d'un moment de temps, cette capitalisation, elle est au détriment de la dynamique et de la survie de ces arbres. Il est nécessaire de récolter du bois pour le bon entretien et l'avenir du bocage. C'est vraiment un atout pour aller alimenter de nouvelles filières et un nouveau développement sur les territoires autour du bois énergie, autour aussi du besoin pour se substituer le besoin en paille dans les litières. Il y a une vraie demande là-dessus. Et puis autour aussi de la question de la fertilité des sols. Le bois est un activateur de sol et il faut de la matière organique durable qui est issue de l'arbre.
On constate les uns les autres qu'il y a quand même bon nombre d'agriculteurs qui se posent maintenant les bonnes questions, qui sont prêts à basculer dans l'agroécologie, donc aussi, entre autres d'utiliser les haies.
Oui, ça évolue très vite d'ailleurs dans les esprits et les agriculteurs se rendent compte d'eux-mêmes d'un certain nombre de dysfonctionnements sur leurs parcelles, notamment de la fertilité, les rendements, la productivité, c'est le premier critère qui mesure. Hein, cette année dans le secteur, le rendement moyen en blé à 45 quintaux, on a rarement connu ça. Quoi. Au bout du compte, on ne peut pas faire autrement que de se réinterroger.
Alors seulement, il y a quand même un environnement qui freine. Hein.
Ah ben, c'est l'environnement global, c'est-à-dire que autour de l'agriculture, il y a un certain nombre de métiers et de structures qui accompagnent ou dépendent de l'agriculture. Il y a aussi les coopératives et le positionnement syndical qui aujourd'hui n'a pas encore aussi clairement que ça pris parti d'engager la profession ou d'inviter la profession à prendre ce virage de l'agroécologie.
Les mots, je vous l'avais compris, c'est du bocage, donc c'est des haies, donc ça suffit, les braconniers des haies, parce que vous avez quand même un certain nombre d'agriculteurs qui ne se sont pas gênés. En plus, il y avait des primes à la fois pour replanter, des primes pour les défaire, c'est un grand bonheur ça. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. On est donc en plein dedans. Merci à vous, donc aussi Yves Gabory, et puis merci à Dimitri Caillot, donc qui est le chargé de mission énergie-climat à Mauges Communauté. La semaine prochaine, ça va être complètement autre chose. Ah ouais, on va aller tout en bas là, de la carte de France, on va aller en Méditerranée et sur une plage du côté du Gros du Roi, on va s'intéresser aux tortues marines, au centre de soins des tortues marines, avec l'OFB, avec Benjamin Guichard et puis d'autres personnes. Je vous emmènerai d'ailleurs aussi en Guadeloupe pour une petite ponte de tortues, ce sera pas mal tout ça. Ne vous gênez pas, sur le Twitter, Denis Chessou, donc d'un seul bloc. Le podcast, abonnez-vous au podcast à la fois de la Tulu Mon Petit Loup, et puis celui donc de CO2 Mon Amour. Et que vous dire, qu'on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Dans quelques instants, ce sera une journée particulière, mais je remercie Clément Berman, Camille Blanès et Xavier Pessugia qui a réalisé cette émission.